C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des...
médias sociaux.
Médias sociaux, merci. Et comme chaque lundi, pardon, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast pour m'accompagner ce matin avec moi, mon backer fou, Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut à tous, j'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Thibaut, comment ça va?
Ça va et toi?
Bah écoute, ça va, comme un lundi matin, prêt à démarrer la semaine sur les chapeaux de roue, petit café, petite tasse le Super Daily, youpi c'est lundi, on est chaud quoi.
Exactement, allez, on va attaquer tout de suite avec peut-être les infos que tu as aperçues cette semaine ou cette fin de semaine dernière. Quoi de neuf?
Et ben moi j'ai envie de vous parler de Snapchat pour démarrer parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de cette plateforme Snapchat, comme à chaque fois que j'en parle je dis ça, je sais, mais parce que c'est une plateforme social media qui est un petit peu laissée de côté par les annonceurs et puis par nous-mêmes dans notre ligne éditoriale. Thibaut, oui, je pose un coup de gueule. Du coup Snapchat, j'ai envie d'en parler tout simplement parce qu'ils sont dans l'actu. C'est la première fois, figure-toi, qu'ils font du bénéfice trimestriel depuis leur début de leur existence. Ils sont en pleine expansion, Snapchat, c'est assez incroyable. Ils ont en fait les résultats de la fin de l'année 2021 qui sont tombés, hein, les derniers résultats du trimestre 2021, et ils ont fait un petit chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars, soit une hausse de 42% par rapport à l'année précédente, ce qui est quand même assez, assez costaud hein, d'avoir une telle croissance. Et figurez-vous que, je ne sais pas si vous êtes investisseur chez Snapchat, et bah, vous avez fait un bénéfice de 22,5 millions de dollars net sur ce dernier trimestre. C'est quand même à souligner, sachant que Snapchat, c'était assez intéressant, parce que tu sais, on a parlé la semaine dernière de Facebook qui avait eu une chute de ses actions en bourse. Et en fait, Snapchat, dans le sillage de Facebook, avait vu ses actions aussi baisser de plus de 20%, sûrement parce que, voilà, petit flip des
effet
investisseurs.
De contagion, ouais.
Exactement. Et puis, 2-3 jours plus tard, on a eu ces annonces sur la comptabilité, je dirais, de Snapchat. Et là, les titres en bourse ont repris 60%, donc c'était le moment d'investir. Enfin, investir juste avant, là ça vient de cartonner. Ce qui est intéressant aussi chez Snapchat, c'est que si Facebook perd des abonnés, bon, Facebook est beaucoup plus grand que Snapchat, bah, Snapchat continue de grandir et compte désormais 319 millions d'utilisateurs actifs mensuels. C'est une hausse de 20% par rapport à l'année précédente. Et dans leur calcul, Snapchat pense que l'année 2022, ils vont continuer à grandir. Ils attendent une croissance en termes d'utilisateurs de 17 à 18% pour 2022. Donc ils pensent qu'ils vont continuer à grossir. Snapchat, c'est quand même un réseau qui est très très bien placé, par exemple en France, chez les 16-25 ans, qui est quasi numéro 1, il me semble. Il faudrait regarder la bonne tranche d'âge, mais ils ont une tranche d'âge comme ça où ils sont devant Facebook, devant Instagram. Donc c'est assez intéressant.
Oui, en France notamment. C'est vrai que Snapchat, il y a une espèce de...
Je ne sais pas pourquoi. Il y a la France et les États-Unis.
La France et les États-Unis, c'est vraiment là que ça fonctionne. Rappelons, hein, tu dis 320 millions d'utilisateurs actifs sur
c'est
Snapchat.
Beaucoup plus petit que Facebook.
Un milliard hein, du côté de TikTok, par exemple. Donc c'est vrai que ça reste plus modeste. Allez, on va parler de Google Analytics, les amis. Une fois n'est pas coutume, Google Analytics qui est hors la loi.
Wow. Voilà.
C'est en tout cas ce que vient de statuer la CNIL. Elle estime que l'usage de Google Analytics est une violation du RGPD. Alors, la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté.
Oh, on en parle pas mal en ce moment parce qu'on a parlé de Facebook la
Totalement.
Semaine dernière. C'est exactement la même chose. Hein.
Donc, la CNIL estime que le transfert de données vers les États-Unis via l'outil Google Analytics ne respecte pas le RGPD. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, l'intégralité des infos Google Analytics pour les sites français et européens est hébergé par des serveurs aux États-Unis. Et la CNIL, mais plus largement l'Union européenne, craint un accès aux données personnelles de millions d'Européens par les services de renseignement américains, parce qu'on rappelons en effet qu'aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle le Patriot Act, qui autorise les renseignements américains à piocher allègrement dans les datas de Facebook, de Google, qui sont hébergés sur son sol. Et du coup, la CNIL vient tout juste de statuer, et elle considère désormais que les sites web qui utilisent cet outil sont non conforme. C'est quand même assez violent, hein. C'est même un tsunami quand on sait qu'à peu près 100% des sites français, on va dire, hein,
et notamment déjà un cloud là-bas,
ouais. Et notamment des sites e-commerce utilisent Google Analytics, qui est vraiment la référence.
Ah oui.
Et du coup, la CNIL ne démord pas et elle précise que pour les gestionnaires de sites qui sont en cause, c'est-à-dire à peu près tout le monde, eh bien, ils ont un délai d'un mois pour se mettre en conformité, c'est-à-dire changer en l'état, c'est supprimer Google Analytics, utiliser un autre service, lequel, c'est la question.
Ouais, c'est ça, c'est un gros chamboulement sur tout ça. On a déjà parlé la semaine dernière avec Facebook, tout ce qui s'est passé autour de Facebook, la menace peut-être de quitter l'Union européenne pour Instagram et la plateforme Facebook. C'est exactement les mêmes raisons, hein. C'est parce que on propose à Facebook d'arrêter d'aller stocker ses données aux États-Unis, de les stocker en Europe. Là, c'est pareil pour Google et Google Analytics. Donc, on va voir jusqu'où va aller cette guerre entre l'Union européenne et ces deux gros géants du web. Écoute, c'est marrant parce que moi, je voulais vous parler de TikTok maintenant. Et un peu sur les mêmes raisons, parce que je me suis dit, bon, la semaine dernière, on a bien tapé sur Facebook et sur sa gestion des données personnelles de ses utilisateurs. Allons regarder un petit peu quand même ce qui se passe chez TikTok.
Ça fait
un moment, ouais, c'est très, très clean.
Ouais.
Ça fait un moment qu'on n'a pas regardé, et du coup, je me suis dit, on va aller regarder de plus près. Et du coup, en cherchant un peu, bah, la plateforme sociale utilise, vous savez, toutes les plateformes sociales utilisent des trackers en gros pour suivre notre activité sur d'autres applications ou sur d'autres sites.
Les fameux pixels hein, de tracking.
Exactement, hein. Ce qui leur permet de voir après ce qu'on consomme et de cibler des publicités plus précises pour nous. Et bah, quand la plupart des plateformes sociales utilisent, allez, on va dire, entre autour de 5, 6 en moyenne pixels comme ça, TikTok en utilise 14, donc ce qui est un peu plus énorme. Et puis surtout, ce qui est le plus dérangeant, c'est que dans ces 14 trackers, en fait, il y en a 13 qui sont destinés à des tiers, qui ne sont pas pour TikTok directement. Alors qu'on sait que, par exemple, YouTube a autant de pixels, 14, mais une grosse majorité d'entre eux, je crois que c'est 12, sont pour YouTube, Google et pas pour d'autres sites ou d'autres instances. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un seul tracker directement lié et destiné à TikTok et que tous les autres, ce sont des informations collectées et on ne sait pas où ces informations vont après. Elles ne vont pas chez TikTok, elles vont pour 13 autres...
Est-ce qu'elles seraient éventuellement commercialisées ? Non, quand même pas.
Bah, apparemment, elles pourraient être commercialisées, mais ce qui inquiète le plus les gouvernements européens et notamment américains, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas dans ces trackers des trackers directement du gouvernement chinois et qui récolteraient de l'information sur la population européenne, la population américaine. Je rappelle que, par exemple, l'armée américaine est interdite d'installation de TikTok sur son téléphone parce que géolocalisation et qu'ils ne veulent absolument pas que le gouvernement chinois puisse savoir où est-ce qu'il y a toutes les bases américaines.
On peut aussi parler là, des mouvements de troupes russes qui ont été largement traqués via TikTok aux frontières de l'Ukraine actuelle dernièrement.
Bien sûr. Hein. Et il y a une enquête qui est aujourd'hui en cours en Irlande, par exemple, avec l'autorité de protection des données irlandaise qui a déclenché une enquête sur TikTok justement pour comprendre où est-ce que ces informations vont, ces 13 pixels supplémentaires. Donc, il y a aussi du côté des États-Unis, on sait qu'il y a eu l'administration Trump qui avait essayé de faire fermer TikTok ou même racheter après pour que ça soit nationalisé, en tout cas dans son déploiement américain. Aujourd'hui, comment s'appelle-t-il déjà ? J'ai un trou. Président des États-Unis,
Biden,
ils ont arrêté de vouloir racheter TikTok, mais par contre, il y a quand même une enquête qui est en cours aux États-Unis aussi pour avoir un examen complet de l'application TikTok et de savoir où vont ces informations et après d'une prise de décision du gouvernement américain. Donc tout ça n'est pas complètement terminé là-bas. L'Union européenne est en train de faire un peu la même chose du coup avec le RGPD et TikTok risque de tomber sous les mêmes conditions que Facebook et Google. Donc l'application TikTok n'est pas plus jolie que les autres.
C'est chaud, hein, c'est vrai que les applications sociales se retrouvent de plus en plus au cœur de sujets géopolitiques. Et puisqu'on parle de politique, je vais vous rappeler les amis que les élections approchent. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Voilà, j'ai une bonne nouvelle pour vous. LinkedIn qui teste une fonctionnalité pour dépolitiser son feed. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est dans une interview au Wall Street Journal que le big boss de LinkedIn, Ryan Roslansky, explique qu'ils vont mettre en place une nouvelle option qui utilise des mots-clés ainsi que la contribution de leurs équipes éditoriales pour identifier les publications politiques et les éliminer, point barre. Donc toi, tu vas avoir dans tes options une petite coche, tu vas cocher « je veux plus voir de sujet politique ». Et normalement, ça dégage. Un soulagement, évidemment un soulagement parce que aujourd'hui et là avec le printemps qui approche, on commence à se retrouver envahi hein, de contenu qu'on n'a pas forcément envie de lire au cœur de LinkedIn notamment. Et LinkedIn a lancé, alors pour l'instant déploiement en cours avec certains utilisateurs, c'est que aux États-Unis, on espère que rapidement ça va arriver en Europe et y compris en France. Intéressant, alors ça pose pas mal de questions quand même parce que on le sait dès qu'on parle économie et c'est plutôt on parle business et économie hein, sur LinkedIn. On parle aussi un peu politique hein, à un moment donné. Voilà, donc c'est sûr que si, je sais pas, le mot-clé Macron ou les mots gouvernement, etc., dégagent, il y a des chances qu'il y ait beaucoup de contenu qui disparaisse de LinkedIn, hein, ceci étant.
Ouais, alors intéressant quand même d'avoir installé ce truc-là, ce mot-clé. Après, ça pose une question plus vaste. Hein. Est-ce que aussi dans la pré-présidentielle, la pré-période présidentielle, est-ce que c'est pas le moment où un des seuls moments au final où on parle vraiment un peu de politique et de société ? Après, chacun gère comme il veut son feed, hein, j'ai envie de dire.
Exactement.
Moi, je voulais vous parler de LinkedIn pour un autre sujet parce que on parle souvent recrutement. On a parlé d'ailleurs. En début d'émission, là, avant de lancer cet enregistrement, on recrute hein, chez Supernatif un social media manager, des social media managers. Donc, si vous êtes gestionnaire de projet dans la com digitale,
bien placé. Très bien placé,
n'hésitez surtout pas à nous balancer un CV sur LinkedIn ou alors job@supernatif.com. Moi, je voulais vous parler de LinkedIn parce que, en fait, je voulais parler recrutement sur LinkedIn. On le savait déjà hein, dans les anciennes méthodes de recrutement. Souvent, la photo sur un CV, c'est ultra important. On sait que les CV qui n'ont pas de photo sont beaucoup moins sélectionnés, etc.
Et bah, figurez-vous. Est-ce qu'on parle des photos de LinkedIn avec une casquette ?
Bah, justement.
Parce que allez jeter un coup d'œil au profil LinkedIn d'Adjane Shelly, là. Belle
casquette.
C'est
pour ça que je serais recruté que dans les entreprises cool. on le savait déjà. Donc, dans ces anciennes méthodes, c'était ultra important. On pouvait se demander sur LinkedIn comment ça se passait. Et bien, il y a des études qui ont été menées sur LinkedIn, c'est exactement la même chose. 80% des professionnels des ressources humaines interrogés dans cette étude affirment qu'ils préfèrent qu'en gros la photo de profil ça joue un rôle essentiel dans la prise de connaissance d'un candidat. Il y en a même 70% d'entre eux qui avouent qu'ils ont déjà juste pas, ils sont pas allés plus loin, ils ont pas sondé plus loin un candidat parce que la photo de profil leur plaisait pas, par exemple. Donc c'est assez intéressant de lire ça. On voit aussi que bah, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Il faut une photo de profil bien visible, faut pas qu'il y ait, que ce soit en basse résolution, sinon ça les repousse. Faut éviter les lieux de vacances. Hein, ça, on le voit aussi souvent sur des photos de LinkedIn, des gars qui ont fait une petite découpe de
vacances
de
leur... en Croatie.
Voilà, short de bain, petit polo. Non, il faut essayer d'avoir des photos un peu plus pro et surtout qui paraissent authentiques, pas des photos complètement retouchées et qui sont complètement irréel. Donc après, ça ouvre un autre débat hein, sur, on le sait, la vision physique des gens dans leur recrutement et est-ce qu'on doit recruter des gens pour leur apparence physique sur une photo de profil ou sur une photo de CV, ce qui ouvre la porte à plein de questions sur la discrimination à l'embauche, etc. Mais en tout cas, pour LinkedIn, voilà, notre petit conseil, soignez votre petite photo de profil.
Si jamais, en plus, vous pouvez, si jamais vous n'êtes pas à l'aise, allez sur 10personsdoesnotexist.com et puis vous téléchargez une fausse image de profil,
oui.
Voilà, juste pour mettre sur le CV et après vous passerez le premier entretien, on voit si ça passe. Non, nous vous pouvez envoyer avec ou sans photo, hein, on s'en fout, job@supernatif.
On regardera surtout vos skills et votre expérience.
Exact, allez, on va basculer du côté d'Instagram. Instagram qui propose une nouvelle interface pour suivre l'intégralité de son activité sur la plateforme. Récemment, Adam Mosseri s'est exprimé sur ce sujet, a dit vouloir donner plus de transparence, plus d'outils à l'attention des utilisateurs que nous sommes d'Instagram pour contrôler qu'est-ce que les gens voient d'eux, où est-ce qu'ils ont interagi, etc. Et bien voilà, ces choses promises, chose faite, Instagram vient de mettre à jour son interface pour intégrer eh bien justement davantage d'infos sur son activité perso sur la plateforme.
Là,
je sais pas si tu es allé voir, c'est si. Plutôt cool. Hein. Ça se passe sur la version mobile, derrière un bouton qui s'appelle Votre activité. Et là, maintenant, il est possible de consulter vraiment l'intégralité de l'historique du compte. Alors, tu as tout, évidemment, tu as ce que tu as publié, donc posts, stories, reels, etc. Là, tu peux faire des suppressions en bloc, c'est quand même très cool. Tu peux sélectionner 10, 15, 20 trucs et dégagé. Donc si tu as des photos de ton ex que tu veux plus voir dans ton feed Insta, tu peux. Voilà, ça peut arriver. Et puis tu as bien plus que ça. Hein. Tu as le temps passé sur Instagram, ça, c'est une info qu'on avait déjà, mais tu retrouves tout au même endroit. Tu as les recherches récentes que tu as faites, pareil, là tu peux tout supprimer massivement. Tu as les liens que tu as consultés. Et puis tu as un truc que je trouve moi très intéressant, c'est l'intégralité de tes interactions au départ de ton compte, notamment les commentaires, les likes que tu as fait et les MP issus des stories, et tu retrouves tout au même endroit.
Et alors, il y a deux petites fonctionnalités qui sont venues s'ajouter là, que j'ai vu passer dans le week-end. C'est quand tu vas dans ton propre profil, que tu cliques sur tes abonnements. Là, tu as deux possibilités pour trier tes abonnements. Tu as les 50 comptes avec lesquels tu interagis le moins, et du coup, tu peux regarder les 50 comptes avec qui tu interagis vraiment très peu. Et tu as les 50 comptes que tu vois le plus passer dans ton feed.
Et ça, c'est
vachement intéressant parce que ça te permet un peu de faire le tri. Et en fait, c'est là aussi où tu te rends compte, et je me suis rendu compte d'un truc, tu vois, qui ouvrira peut-être une autre discussion plus tard sur l'algorithme Instagram, c'est que j'ai des comptes médias ou des choses comme ça, par exemple, avec qui j'interagis quasiment pas. C'est pas du tout dans mes interactions, c'est dans mes comptes avec lesquels j'ai le moins d'interactions. Par contre, c'est quand même des comptes qui apparaissent le plus dans mon feed parce qu'ils publient 30 fois par jour.
Et là, c'est intéressant d'aller jeter un coup d'œil à leur stratégie social media, comprendre pourquoi eux, ils sont dans mon feed, qu'est-ce qu'ils publient comme contenu, etc. Ok, très intéressant en tout cas sur toutes ces petites add-ons que propose Instagram. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai envie de dire.
C'est déjà pas mal.
On est avec vous chaque matin à 9h du mat en direct sur Twitch, sur Twitter Spaces, si jamais ça vous tente de nous rejoindre. Et puis, bien sûr, vous écoutez ce podcast dans une application de podcast. Merci à vous. Si vous êtes sur Apple Podcast, Spotify, on compte sur vous. Balancez 5 étoiles là, maintenant, tout de suite. Mettez-nous aussi un petit commentaire et puis surtout, partagez cet épisode avec une pote, avec un pote.
Bah oui, directement. Et puis on est sur les réseaux sociaux, Supernatif, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Venez en parler.
Là où vous êtes, nous y sommes. Les amis, allez, on se donne rendez-vous dès demain, 9h du mat.
Allez, ciao.
Salut tout le monde, bye, ciao.